Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce n'est pas tellement à la succession précise de faits qu'il faut s'attacher pour évoquer la vie de Bernard-Marie Coltès, mais plutôt au sentiment général qui s'en détache, celui d'une forme d'attirance pour les gouffres. Enfant, il était toujours souriant, dit-on, mais son sourire s'est effacé en partie dans les parages de ses 16 ans et il est devenu un adulte qui savait certes toujours comment rire, mais qui était aussi un être désabusé. Pourtant, s'il a cherché sa perte dans les drogues et les dangers, s'il a tenté de se donner la mort, ce n'est finalement pas cela qu'en retient Brigitte Salino, venue lundi dernier nous parler de sa biographie au cours d'un épisode disponible en téléchargement. Et puis hier, l'émission a été annulée pour cause de grève. Nous devions parcourir l'œuvre de Coltès avec Arnaud Maizeta, qui a publié en 2018 une biographie du dramaturge sur laquelle nous vous renvoyons. Elle est très bonne, elle est disponible aux éditions de Minuit. Enfin demain, nous nous demanderons comment relire Coltès aujourd'hui. Ce sera avec Florence Bernard, qui nous parlera aussi de sa vision de ce qu'elle appelle la poétique des contraires du dramaturge. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour analyser quelques thèmes coltésiens, nous sommes avec vous, Christophe Bidan, bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de Maurice Blanchot, auteur à qui vous avez consacré une biographie chez Champvallon en 1998. Et vous êtes aussi, on s'en doute, spécialiste de Coltès, auteur de deux essais le concernant, Bernard-Marie Coltès, généalogie, c'était chez Farago en 2000, réédité depuis par Publi.net, et puis Coltès, Le sens du monde, en 2014, aux éditions des Solitaires intempestifs. Pourquoi êtes-vous revenu comme ça, une deuxième fois, sur ce dramaturge? Est-ce que votre vision de lui avait changé entre-temps? Est-ce qu'on en parlait différemment? Est-ce que des éléments nouveaux sont venus s'intercaler?
Oh, il y a au moins deux raisons. D'abord, il y a des écrivains qui vous accompagnent toute une vie. C'est le cas de Coltès. Donc à un moment donné, on y revient aussi pour dire quelque chose de plus, parce que s'ils vous accompagnent toute une vie, c'est que leur œuvre est suffisamment riche pour générer un certain nombre d'idées complémentaires.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils vous accompagnent à ce point-là? Qu'est-ce qui exactement vous a comme ça attrapé au point que vous avez eu envie d'y consacrer une bonne partie de votre carrière?
Ce que Coltès peut-être appelle lui-même le mystère. Ce qu'un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur lui tentent effectivement d'envisager sous cette notion de mystère, qui n'est pas une notion mystérieuse en tant que telle, qui est une notion qui est à la fois mystique, linguistique, et je pense que ce qui attire d'abord, c'est justement la langue. C'est une langue très, très particulière. Faite, comme le dit Florence Bernard, vous l'avez rappelé, d'une poétique des contraires, faite également d'accélération, de décélération, d'un mélange de ruptures modernes et de structures très classiques, adressées à l'autre, non adressées, retenues totalement en elles-mêmes, avec finalement donc toute une stylistique, toute une manière d'écrire et d'écrire pour le théâtre et d'écrire au-delà du théâtre, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir que s'il a beaucoup écrit pour le théâtre dans le peu d'années qui lui a été donné de vivre, hein, il est mort à 41 ans, il a aussi voulu écrire pour le cinéma, il a aussi écrit des nouvelles, il a aussi écrit un roman, et nul ne sait si il aurait écrit autant de théâtre dans le prolongement de sa vie.
Il a écrit des lettres aussi, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Alors, que vous êtes revenu d'ailleurs quelques années plus tard.
Voilà, c'est
après
la deuxième
avoir écrit,
raison que
écrit un premier essai sur
c'est la deuxième région que j'évoquais. Je m'en ouvre d'ailleurs explicitement dans le début de mon deuxième livre. La correspondance est absolument fabuleuse et fabuleuse d'ailleurs en probablement en jouant aussi sur le sens de ce mot, parce qu'il y a toute une dimension fictionnelle dans cette correspondance, c'est-à-dire une manière de fictionnaliser sa propre vie. C'est peut-être le cas d'ailleurs de beaucoup d'écrivains, et c'est peut-être pas ce qui fait sa singularité. La singularité de cette correspondance, alors je pense qu'il y a deux choses au moins, c'est-à-dire d'une part il y a la révélation de cette correspondance au public, hein, on en connaissait très peu en fait de lettres avant 2009, donc 20 ans après la mort de Coltès, François Coltès, le frère de Bernard-Marie, a publié ce volume aux éditions de Minuit. Et là, on a découvert une masse de correspondances qu'on ne connaissait pas avant. Ça, c'est un impact évidemment important pour ceux qui s'intéressent à Coltès, et ils sont nombreux. On a beaucoup dit dans les années 90, notamment, que Coltès était l'auteur qui était beaucoup lu, beaucoup joué par les jeunes, avec parfois une dimension de jeunisme peut-être un petit peu trop accentuée. Évidemment, ça va au-delà. Mais cet intérêt que je rencontre aujourd'hui encore chez mes étudiants, par exemple, hein, pour l'œuvre de Coltès, c'est vrai qu'il parle au monde. Je pense que c'est pour ça aussi que le deuxième livre, j'ai voulu l'appeler Le sens du monde.
On reviendra sur cette expression qui dit beaucoup de la façon dont vous voyez le théâtre de Coltès.
Et puis donc, pour revenir sur le deuxième aspect peut-être singulier de cette correspondance, je crois que c'est une correspondance d'écrivain sans en être une véritablement. Par rapport aux correspondances d'écrivains, je dirais classiques, canoniques, qui sont des écrivains qui lisent beaucoup, qui parlent beaucoup de leur lecture, qui écrivent beaucoup de lettres, qui sont peut-être souvent un petit peu plus sédentaires. Coltès est un nomade perpétuel. J'écris à un moment donné dans mon livre que à chaque fois qu'on tourne la page de cette correspondance qui en contient 600, on est dans un autre lieu. C'est quelqu'un qui a toujours vécu de manière nomade, au sens vraiment où il n'emportait quasiment rien avec lui. Et donc il a vécu dans différents lieux en France, vécu à l'étranger, et à chaque fois le déménagement était limité, grosso modo, au magnétophone de l'époque, à quelques disques, je ne sais plus sous quelle forme, dans les années 80, dans les années 70, 80.
Oh, sûrement des vinyles encore.
Voilà, des cassettes. Des cassettes, en tout cas, il en parle, des petites cassettes, aussi bien de Bach que de Bob Marley. Hein. Et d'ailleurs, justement, cette sorte de... pas d'opposition chez lui, de complémentarité entre ce que j'évoquais tout à l'heure aussi au niveau de l'écriture, finalement, la stylistique classique et parfois les transgressions modernes, c'est un peu ça aussi, c'est Bach et Bob Marley, il le dit souvent, c'est un petit peu sa musique à lui.
Le reggae, il adorait ça. Il était allé justement, puisqu'il se trouvait à New York, en grand nomade, en 1981, en mai, au moment où Bob Marley est mort, et il a assisté à son enterrement. C'était le lendemain, je crois, de l'élection de François Mitterrand. Il avait été très déçu de ne pas être en France pour l'élection d'un président socialiste, lui qui avait été communiste pendant quelques années. Toujours est-il que pour lui, en effet, la musique et toutes les musiques étaient très très importantes. J'insiste là-dessus parce que vous considérez, Christophe Bidan, qu'il faut précisément désenclaver Coltès. Alors, le désenclaver d'une vision un petit peu trop dramaturgique, si je peux m'exprimer ainsi, pour l'ouvrir finalement à d'autres horizons, la philosophie, la poésie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous souhaitez nous dire finalement avec cette expression de désenclavement de Coltès?
Alors, c'est une expression que j'ai utilisée en ouverture de mon premier livre sur Coltès, qui date déjà de 2000, hein, donc ça fait 20 ans.
Il est
désenclavé depuis, je pense. J'espère, en tout cas. S'il ne l'est pas, c'est que j'ai failli à ma mission. L'idée, effectivement, sans rien avoir contre les dramaturges, c'était plutôt un état de lecture de l'époque. C'est-à-dire qu'en 2000, finalement, 11 ans après sa mort, Coltès avait été beaucoup joué. Il l'est peut-être moins depuis. ce qui est un regret. Les lectures critiques, les lectures même finalement journalistiques aussi, étaient forcément des lectures qui portaient davantage attention à la dimension proprement théâtrale de ces textes. Forcément, les critiques journalistiques qui s'intéressaient aux mises en scène qui avaient pu être faites, notamment par Chéreau.
On reproche plutôt aux journalistes en général de ne s'intéresser qu'au sujet et pas tellement au texte. Mais la parenthèse est refermée.
Et donc, moi, il me semblait nécessaire, parce que je l'avais approché peut-être d'une autre manière. Ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de croiser justement des moments de lecture de Koltès, des mots, des phrases, des morceaux de phrases. Parfois, un morceau de phrase, c'est un morceau de tout un texte, hein, puisqu'il a écrit, par exemple, La nuit juste avant les forêts, qui est un texte composé d'une seule et très longue phrase. Mais d'essayer de croiser des strates de langage, des moments de langage, avec d'autres, avec ceux d'écrivains, romanciers, de poètes. Je pense à Joué Bousquet, par exemple, des considérations sur l'obscurité, qui sont très voisines de celles de Koltès, alors qu'on est dans des poétiques et dans des univers très différents. Mais voilà, faire peut-être migrait Koltès, dont il me semblait que l'écriture ne demandait que cela.
Alors la poésie et aussi la philosophie, est-ce que on peut rapprocher Koltès d'un philosophe? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une lecture possible qui serait une lecture philosophique de ces textes, selon vous?
Alors, approcher Koltès d'un philosophe, non. Je crois que lui-même, d'ailleurs, aurait beaucoup ri si... et ce serait même, en un sens, moqué.
Est-ce que vous semblez évoquer Derrida, Jean-Luc Nancy?
Oui, alors, par contre, pas se rapprocher d'un philosophe, mais tout au moins utiliser les lectures philosophiques de philosophes comme Derrida et Nancy, qui se sont beaucoup intéressés à la littérature, mais pas à Koltès en particulier. Et c'est vrai que, personnellement, venant aussi de cet univers-là, hein, vous avez cité Blanchot tout à l'heure, et m'étant toujours demandé personnellement quelle était la différence réelle, quelles étaient les limites entre poésie, littérature et philosophie, ce sont des univers et des genres que j'ai toujours pratiqués de manière, je dirais, transversale et fluide, enfin, sans me poser la question des frontières entre les genres. Il me semblait intéressant de voir en quoi l'écriture de Koltès, son écriture véritablement, pas ses prises de position, parce que finalement il y en a très très peu, il y a toute une stylistique, tout un art poétique qui se décrit lui-même dans la correspondance. Ça, c'est un des intérêts aussi de la correspondance. Mais par ailleurs, à part aussi quelques entretiens qu'il a pu donner dans les années 80 et qui sont rassemblés dans un petit livre qui s'appelle « Une part de ma vie », on a assez peu de positions théoriques, même sur le théâtre, hein, de sa part. Et donc, je crois qu'il y a un parallélisme, parce que des gens comme Derrida ou Nancy ou d'autres encore, hein, ont vécu dans le même temps que Koltès, et je crois qu'un certain nombre de questions qui pourraient se ranger, par exemple, sous l'étiquette de la postmodernité, on peut très certainement entrer dans l'œuvre de Koltès avec ces interrogations-là.
C'est un auteur postmoderne
à ajouter aussi. Ouais.
C'est un auteur postmoderne, Koltès.
Je dirais que c'est un auteur postmoderne, c'est ce que j'ai un peu voulu dire. Alors, ça répond encore peut-être d'une troisième manière à la question que vous me posiez au début de cet entretien. Pourquoi avoir écrit un deuxième livre sur Koltès? Je disais qu'autant Généalogie, comme son titre aussi l'indiquait un peu, interroger l'œuvre à partir de la question du temps, autant Le sens du monde l'interroger, lui, à partir de la notion d'espace. Et ce sont tous ces espaces multiples, les espaces multiples de la réalité africaine, la réalité américaine, si tant est que ces labels, hein, soient tout à fait génériques, mais dont on voit que finalement, dans les principales œuvres qu'il a écrites dans les années 80, on voit que ces œuvres se situent dans des mondes assez différents. Hein. Key West a tout de New York, dont vous parliez tout à l'heure. Combat de nègres et de chiens se situe en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc à travers tous ces univers qui sont parfois très référencés dans un état du monde. Le néocolonialisme en Afrique de l'Ouest, les délaissés, les laissés pour compte du capitalisme dans Key West. Toutes ces questions qui sont finalement des questions liées à la postmodernité, c'est-à-dire que devient, pour le dire très vite, hein, que devient une humanité qui n'aurait plus de croyance dans les aspirations et les réalisations de de la modernité, qui n'aurait plus nécessairement de croyance, une sorte de diktat du progrès ou du bonheur, et qui pourtant chercherait toujours les moyens singuliers, personnels et collectifs de les affirmer, cette quête du bonheur et de la paix et de la convivialité, on va dire. Comment ces questions postmodernes se posent également dans cette œuvre, et à travers donc des univers très référencés, je disais tout à l'heure, des univers réalistes d'une certaine manière, mais toujours traversés de mise en doute, de mise en question, qui font que on n'y croit jamais véritablement. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension virtuelle, imaginaire, qui imprègne ces univers référencés à la réalité et qui sont précisément le questionnement que Coltès adresse au sens du monde.
Le centre, s'il faut trouver un centre de gravité comme ça dans une pièce. Je suis sûr que moi, je ne suis pas capable de donner comme centre de gravité une action, c'est-à-dire, ou avec un dénouement, des choses comme ça. L'action ou l'intrigue, si on veut, c'est la chose que je trouve en tout dernier, c'est-à-dire quand, le jour où, après un an d'avoir accumulé des notes comme ça, ou des morceaux de texte, je me dis, bon, maintenant, il faut écrire une pièce, il faut un début, un milieu, une fin. Et là, je me dis, il faut que je trouve une intrigue. Mais c'est vraiment la chose la plus, en tout dernier, qui est une nécessité. Parce qu'on peut parler de rien si on raconte pas une histoire en même temps, mais c'est pas la chose la plus intéressante, je crois. Enfin, ce qui me semble le centre d'intérêt de, en tous les cas, de ce que moi j'écris. S'il y a une chose que j'écris pas, c'est des dialogues, même quand ça dialogue, des monologues qui se percutent un peu, mais il est certain que par exemple dans Combat de nègres et de chiens, c'est quatre personnages qui sont chacun dans leur trip et qui le continuent. Et l'un influe sur l'autre, c'est certain, mais c'est pas vraiment un échange.
La Compagnie des œuvres et un entretien de Coltès avec Michel Delforgue qui date du 22 juillet 1983. Alors voilà comment Coltès définissait son travail dans la revue Europe cette même année. Il disait « J'ai seulement envie de raconter bien, avec les mots les plus simples, la chose la plus importante que je connaisse et qui soit racontable, un désir, une émotion, un lieu, de la lumière et des bruits, n'importe quoi qui soit un bout de notre monde et qui appartienne à tous. » On est peut-être là, en effet, dans le prolongement de ce que vous disiez, Christophe Bidan, sur ce passage à un au-delà de la modernité, c'est-à-dire que on se contente de décrire le monde, on le fait avec les outils de la poésie, mais y a-t-il un discours qui serait en effet un discours du progrès ? Pas forcément.
Non, pas forcément. Les deux citations, enfin celles qu'on a entendues de la voix de Coltès lui-même, magnifique, et puis celles que vous venez de faire à nouveau, sont en même temps presque contradictoires, c'est-à-dire qu'ils brouillent les pistes en permanence. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Quand je parlais de mystère au départ, c'était pas pour donner l'allure de quelque chose de mystérieux, c'est le mystère, précisément, il est là. Il est dans ce brouillage des pistes. Et le brouillage des pistes, c'est aussi une manière de répondre à l'interrogation sur le devenir du monde. Alors, le brouillage des pistes, là, en l'occurrence, il caractérise son art poétique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a une espèce d'aura, et à partir, c'est la date que vous avez mentionnée, à partir du moment, au début des années 80, où Patrice Chéreau le monte et où on commence à l'interroger sur sa manière d'écrire, sur sa presque stratégie d'écriture, on voit bien qu'il répond de manière, je dirais, presque contradictoire, puisqu'au départ, il dit l'action... finalement, c'est ce que je trouve en dernier, même si il faut raconter quelque chose, dit-il. Et puis dans l'autre citation que vous avez faite vous-même, raconter devient le geste premier. Alors ça, ça me semble très important aussi, parce que c'est une quatrième manière de répondre à la question que vous me posiez au départ.
Finalement, il n'y avait qu'une seule question à poser.
Pourquoi être revenu sur Coltès ? Et ça sera peut-être une manière de faire parler un petit peu Arnaud Maizetti, qui n'a pas pu s'exprimer hier, parce que c'est cette citation qui a beaucoup frappé Arnaud.
Et la deuxième
qui,
alors.
La deuxième, hein, c'est-à-dire la volonté de narration, raconter bien. Cette volonté très simple finalement, qui elle-même alors serait absolument ni moderne ni post-moderne, qui serait presque anté-moderne, classique finalement, hein, de raconter quelque chose. Alors sauf que ce qu'on voit, c'est que quand il met un objet à ce récit, raconter quoi, il dit, on l'a entendu, vous l'avez relu,
un désir, une émotion, la lumière, les bruits, un lieu, n'importe quoi qui soit un bout de notre monde et qui appartiennent à tous.
Voilà. C'est très très riche. D'abord, il y a une série d'objets qui ne sont pas les objets du récit en tant que tel, qui sont plutôt des objets de poésie ou de musique, ou d'art visuel, hein, des bruits, des lumières. Voilà, il a très souvent dit que, par exemple, Key West, qui donc est une pièce qui se passe dans des hangars désaffectés, disons de New York, même si c'est pas affirmé clairement dans la pièce, hein, en tout cas d'une grande ville moderne qui a abandonné une certaine partie de son peuple et un certain nombre de ses activités. Il a lui-même décrit Key West comme essentiellement la rencontre de la lumière sur le mur d'un hangar et que finalement tout par-delà. Donc il y a vraiment un objet de narration qui, à un moment donné, va devenir un peu comme le prisme, en fait, de tout ce qu'on va pouvoir dire du monde. Parce qu'après, les personnages, les discours sont extrêmement, j'irais, hantés sur le monde et hantés par le monde.
Mais alors, est-ce qu'il s'est résolu à la narration? Il semblerait que avec Hubert Gignoux, il s'était un petit peu agacé sur ce thème-là, que c'était un thème de discorde, parce que Gignoux lui disait qu'il fallait parler avec des intrigues, qu'il fallait quand même raconter, alors que pour lui, écrire, c'était fabriquer des éclats. C'était pas justement constituer des intrigues. Comme vous le dites, il est très ambivalent. En même temps, est-ce qu'il s'est vraiment converti à la narration? Parce que vous expliquez aussi très bien, Christophe Bidan, que la plupart de ses pièces ne s'achève pas vraiment. On ne sait pas très bien ce qui se passe, ce qu'il advient des personnages à la fin de ces pièces. Comment vous pensez cette chose-là?
Alors, je vais reprendre la question par le bout, c'est-à-dire ou par cette absence de bout, cette absence de fin, justement, hein, qui est très caractéristique de ces pièces et qui porte l'absence de fin jusqu'à vraiment son extrême limite. C'est-à-dire que, par exemple, dans Key West, encore une fois, la dernière didascalie, c'est un des personnages qui pointe son arme sur quelqu'un d'autre qui est très près et qui tire. On imagine assez mal comment il pourrait le manquer, mais jamais il n'est écrit que l'autre personnage meurt.
Donc la mort est là, mais elle n'est pas tout à fait explicite.
Et c'est la même chose dans la suite des Champs de Coton, où la dernière réplique c'est « alors quelle arme ?» et on imagine que les deux personnages, le dealer et le client, vont se battre et finalement cette action n'arrive jamais.
Ou dans Roberto Succo, où le personnage se jette dans le vide, mais on ne sait jamais s'il tombe par terre et si le
ou si c'est un trampoline haut, en fait. pour le rattraper. Voilà, donc il y a véritablement une absence de fin, une absence de dénouement, hein, qui finalement est une transgression relativement soft, on va dire, hein, à la narration. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que tout ait déjà été raconté auparavant. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette absence de fin, en fait, souvent... enfin, c'est un des intérêts, permet aussi de reboucler avec le reste du texte. Et là, on revient à quelque chose qu'il dit dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que il qui répond à la question, enfin à ce rapport dialectique entre le texte et l'action. Hein. Coltès dit, on le sait, un ami comme Claude Stratz, par exemple, en témoignait lui-même souvent. Il écrit des bouts, des morceaux de langage. Hein. Et il dit lui-même qu'il écrit pas vraiment des dialogues, mais des monologues qui se croisent, qui se percutent. Voilà. Donc c'est là qu'on peut prendre Coltès, effectivement, d'abord peut-être en retournant à la généalogie d'écriture, justement, c'est-à-dire le lire d'abord comme un poète, le lire d'abord comme un poète qui en vient à la narration et qui en vient à l'action. Et certes, Il y a évidemment de la narration et de l'action dans ces pièces, et notamment dans les pièces des années 80, qui sont les pièces les plus connues, hein, beaucoup plus connues que ces pièces de jeunesse. Mais je dirais que finalement, la narration, elle est à la fois un choix revendiqué, et en même temps, elle arrive au bout de l'écriture.
Alors, la manière dont vous décrivez l'écriture de Coltès peut faire penser à Proust. On a souvent d'ailleurs fait cette association, c'est-à-dire qu'il y a en effet une narration, mais ce qui compte, c'est pas tant la narration que l'écriture qui s'autogénère. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souscrivez finalement, je pense que oui, à cette idée-là?
Oui, alors Proust et d'autres aussi, hein, d'ailleurs, y a des rapports très intéressants aussi, évidemment, avec Genet, par exemple. Je dirais de manière globale, avec tous les modernes, précisément, sans que pour autant, et même avec Beckett, on a souvent voulu opposer Beckett et Coltès, et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a une opposition assez frontale entre eux, notamment d'ailleurs au moment où ils ont écrit ensemble, ou tout au moins parallèlement, en contemporain. C'est-à-dire que c'est le dernier Beckett et c'est le premier Coltès. Et le dernier Beckett, c'est celui du dépeuplement, de la dramatique. Comme le disait lui-même, hein, les dramaticules qu'il crée à la fin, au moment où Coltès, au contraire, passe plutôt de pièces au départ un peu éparses dans leur composition, un peu trouées, un peu manquantes en termes de narration précisément, et au contraire va vers quelque chose de plus construit, de plus narratif, comme on le disait auparavant. Donc à mon sens, ces oppositions-là, elles sont compréhensibles en un premier temps, mais ça ne tient pas véritablement non plus, parce que ce qui nous rattrape quand on lit Coltès et quand on lit même finalement les pièces les mieux composées, dirait-on, pour reprendre ce terme un peu ancien de la composition, même ces pièces-là sont rattrapées par des vertiges, par des manques, par des contradictions, par des mystères, comme je disais aussi tout à l'heure. Et c'est ce qui fait aussi sa modernité.
Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en fasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi.
Un extrait de Dans la solitude des champs de coton, interprété et mis en scène par Patrice Chéreau lui-même. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette pièce que vous avez vous-même montée, Christophe Bidan, parce qu'on peut en tirer un certain nombre de fils qui nous permettent d'analyser l'œuvre de Coltès. Vous vous dites que c'est une œuvre transcendantale. Alors on va partir de ce mot-là, on va essayer de l'éclairer un tout petit peu de manière plus simple. Vous considérez finalement que dans cette pièce, il y a presque tout Coltès, qu'on peut partir de cette pièce pour l'expliquer quasi intégralement.
Alors c'est ma lecture, hein. Je prétendrai pas en faire une loi de la critique de Coltès. Quelqu'un comme Arnaud Maizetti parlerait plutôt peut-être d'une pièce transcendantale avec La nuit juste avant les forêts, qui est pour lui sa manière d'entrer dans l'œuvre. Ça a été certainement la pièce transcendantale pour Patrice Chéreau aussi. Puisque vous donniez à entendre un extrait à la fois de l'ouverture de Dans la solitude des champs de coton. Hein, c'est la première réplique qu'on a entendue tout à l'heure, la réplique du dealer qui était incarnée par Chéreau lui-même, lors de sa troisième mise en scène.
Ce qui n'est pas allé sans poser problème, mais on reviendra peut-être justement sur ce sujet un peu plus tard.
Et je pense que le fait qu'il y ait revenu plusieurs fois montre bien justement qu'il y avait un débat entre Chéreau et Coltès. Il y a certainement un débat au sens où vraiment on se débat quand on est dans une situation difficile physiquement, et qu'il y avait un débat entre Chéreau et cette pièce. Alors pour moi, effectivement, c'est transcendantal. Alors non pas au sens de la transcendance, hein, mais au sens kantien, hein, de la transcendentalité, c'est-à-dire ce qui rend les conditions de l'expérience possible. Et vraiment, c'est une espèce de postulat théorique, puisque évidemment, ça n'est pas la première pièce de Coltès, ça n'est pas non plus la première pièce de ce qu'on considère en général comme le début de sa deuxième phase d'écriture, c'est-à-dire la dans les années grosso modo 77 jusqu'à la fin, quand il a écrit les pièces qu'il reconnaissait lui-même d'ailleurs, hein, parce que les pièces de jeunesse, il n'était pas très favorable à leur publication ultérieure. Elle a eu lieu, cette publication, de manière posthume, et je pense que c'était important de les publier également. Mais il ne s'y retrouvait peut-être plus. Alors transcendantal, pourquoi ? Parce que on aurait comme une espèce de précipité de tout ce qu'on peut retrouver ailleurs. Pour prendre deux exemples, il y en aurait certainement beaucoup d'autres, mais pour prendre deux exemples qui me semblent vraiment importants, c'est la ramification en quelque sorte à deux personnages. Le dealer, le client.
Voilà, c'est un client, un dealer.
Voilà.
Et ça n'est que ça, finalement, la pièce.
Un dealer, un client, dont on ne sait jamais, d'ailleurs, ce qu'il deal, ce que l'autre doit pouvoir acheter. L'objet du deal n'est jamais nommé. L'endroit, à part qu'on se trouve, visiblement,
peut-être
dans un terrain vague,
encore,
entre deux immeubles, on ne sait pas exactement non plus où ça se trouve. Donc, on a une situation assez nue, assez neutre, hein, de tout ce qu'on va retrouver ensuite dans un chantier néocolonialiste d'Afrique de l'Ouest, dans un hangar désaffecté de New York, comme on disait tout à l'heure, ou dans la prison de Roberto Zucco, par exemple. Donc là, on a au contraire des lieux qui ne sont pas nommés, et on aboutit à une espèce de... Enfin, on est confronté à une sorte de substantifique moelle, on aurait dit rablé, de la situation coltésienne. Et ça a à voir avec la question de la narration. L'autre chose qui me semble assez fondamentale, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais puisque vous m'aurez interrogé sur la solitude, je pense que c'est ça qui l'exemplifie très bien, c'est que c'est vraiment la pièce pour laquelle Coltès a écrit des monologues qu'il a ensuite mis bout à bout les uns des autres sans que l'ordre ait été véritablement prémédité.
Et donc la question se pose de savoir en effet ce qui se deal. Est-ce que ce qui se deal, ça n'est pas justement cette solitude-là, c'est-à-dire qu'on cherche dans l'autre une espèce d'attention, on réclame de l'attention la forme de la pièce, donc avec des monologues qui se répondent, mais se répondent-ils vraiment, justement, c'est la question, semble montrer que la communication, que la manière de toucher l'autre est finalement quelque chose qui est problématique et qui, en tout cas, semble être l'un des sujets de Coltès. Est-ce que vous pourriez dire cela également ?
Ah oui, oui, c'est exactement cela. Alors, les différentes mises en scène, il y en a eu beaucoup, en France et à l'étranger, de cette pièce, montrent bien que, en fait, il y a deux cas de figure. C'est difficile de faire autrement devant cette pièce pour un metteur en scène. Soit on va nommer un objet à ce deal, soit on va essayer d'en rester, de coller à cette neutralité, à cette absence de nomination de l'objet. Et d'une certaine manière, dans les deux cas, on se retrouve finalement dans la même situation. Parce que si on essaie de nommer l'objet du deal, ça a pu être la drogue dans une des deux premières mises en scène de Chéreau, ça a pu être le désir lui-même dans la troisième, celle dont on a entendu un extrait tout à l'heure. C'est toujours le rapport à l'autre, effectivement, qui est mis en jeu et remis en jeu à quasiment chaque réplique. Ce qui rejoint la question des monologues croisés. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc vous faisiez allusion au fait que je l'avais mise en scène moi-même. Je rends hommage pour cela aux deux acteurs qui avaient joué à l'époque, Pierre-Antoine Villemain et Jack Couder, qui me disaient dans le temps même de la répétition que ils en venaient à se rendre compte, ce que moi-même comme lecteur je n'avais pas perçu à la lecture linéaire de la pièce, que c'est par exemple dans la huitième réplique du client que le client répond à une question posée par le dealer dans la deuxième, ou alors de manière inversée, qui répond déjà à une question qui va être posée plus tard dans la pièce. Et ce qui montre bien finalement l'entrecroisement des monologues, l'entrecroisement de ces langages, et qui participe aussi à la déroute du sens, à la déroute du lecteur, qui pour autant est en même temps totalement attiré par ce langage qui n'est pas totalement linéaire, totalement linéarisé.
Alors Christophe Bidan, il y a donc une polémique au sujet de cette pièce quand Chéreau l'a mise en scène, parce que il a joué lui-même le dealer, il devait le faire jouer par Isaac de Bancolet, et cet acteur-là a été finalement obligé de partir sur un notre sur un film en l'occurrence. Vous, est-ce que vous avez fait jouer le rôle du dealer par un acteur noir ou par un acteur blanc, parce qu'on sait que c'était très important pour Koltès et que Koltès n'a pas aimé que Chéreau, finalement, un acteur blanc en l'occurrence, s'approprie ce rôle. Qu'en pensez-vous de tout ça et comment vous avez-vous traité ce sujet ?
Bon alors, comment je l'ai traité pour répondre à votre question, je vais le faire, c'est peut-être pas le plus important. Moi, je l'ai traité avec deux acteurs blancs. Et on voit bien d'ailleurs que depuis, la question s'est tout à fait généralisée, puisqu'on a eu aussi, plus récemment, une dealeuse, hein, un dealer femme, donc une femme, un homme ou deux femmes. Voilà. Donc je pense par contre que pour revenir plus généralement, et c'est ça qui me semble vraiment intéressant dans la question, pour revenir plus généralement sur cette question de la présence du noir ou de l'arabe dans les pièces de Koltès.
Parce que le problème s'est reproduit ensuite avec Manuel Mayet à la Comédie Française.
Voilà, ça a été le gros débat qui est allé jusqu'au combat et au procès. Hein. Je pense qu'il y a deux façons de voir d'essayer de traiter la question. Il y a ce que Koltès voulait et il y a ce qu'il écrivait. Et je pense que c'était pas toujours la même chose. Mmh. C'est-à-dire que dans les similitudes des champs de coton, il y a aucun signe particulier dans le texte qui dise que le dealer est noir. Que lui le veuille et que finalement il projette une sorte de fantasmatique personnelle sur sa propre écriture, c'est intéressant, mais ça n'est pas une loi du texte.
On peut se demander pourquoi lui-même n'a pas tout simplement écrit une didascalie.
C'est exactement ce que j'allais dire, il y a rien effectivement dans le texte, ni dans les dialogues, ni dans les didascalies. Alors il n'y a qu'une didascalie initiale, mais effectivement il aurait pu le faire. Par contre, il y a une autre question qui rejoint d'ailleurs des problématiques très contemporaines, hein, ces problématiques du blackface finalement, dont on a reparlé très très récemment. C'est la question de savoir si effectivement on peut cosmétiser en quelque sorte l'apparence de l'autre pour donner une crédibilité au visage que l'on présente. Si on peut également faire abstraction de l'inégalité d'accès des comédiens d'origines diverses dans les structures théâtrales, que ce soit la Comédie Française, où certes il y a quelques Noirs depuis un certain nombre d'années, mais pas forcément un taux encore de représentativité de la population française. Enfin, c'est un peu plus toutes ces questions-là, finalement, qui sont à la fois des questions esthétiques, sociologiques, philosophique aussi finalement, qui me semble vraiment importante. Et il y a eu des débats aussi quand, par exemple, certaines pièces de Koltès étaient mises en scène dans d'autres pays. Il a par exemple accepté que les Turcs soient les Arabes de la mise en scène allemande, parce qu'il y avait une sorte d'homologie en quelque sorte à ce que dans le pays en question, ce soit une autre minorité qui soit représentée.
J'ai le sentiment que les expériences que je vis et les gens que je côtoie, à partir du moment où je les écris, je les mets à mort, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs le seul problème que je me pose en tant qu'écrivain, c'est que quand je vis des expériences et quand je rencontre des gens, je sais que un jour ou l'autre, je vais m'en servir pour les écrire, si je peux dire, et qu'à partir de ce moment-là, Je ferai une œuvre de mort vis-à-vis de cette expérience vécue et vis-à-vis de ces gens que j'ai rencontrés. Non pas que j'éprouve un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça, mais disons que j'éprouve une certaine difficulté à doser l'existence d'une part et à lui garder son indépendance par rapport à l'écriture. Et d'un autre côté, à continuer à écrire. Et je sens des deux côtés, à la fois du côté de l'existence et à la fois du côté de l'écriture, une attirance pour vivre l'un et l'autre d'une manière entière, et je sais très bien que c'est pas possible. Non pas que je considère le fait d'écrire et l'écriture théâtrale comme quelque chose de pas respectable, c'est pas le problème. C'est que je me dis qu'elle est complètement stérile, complètement morte. C'est même sa force.
La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Est-ce que vous diriez, Christophe Bidan, qu'il y a une grande mélancolie chez Koltès et dans son théâtre? Et est-ce que cette mélancolie, elle ne viendrait pas de la perte de l'enfance et peut-être de la perte d'un certain nombre de cadres de l'enfance, et notamment, pourquoi pas, de la religion, dont on sait qu'elle a été très importante, à la fois pour sa mère, pour son père. Il a été élevé dans un collège jésuite, et il y a quand même toujours un côté contemplatif, alors qu'il n'est plus à proprement parler religieux, mais enfin, on sent quand même, alors j'ai envie de reprendre le mot de transcendance, mais pour l'employer dans un autre sens, on sent une forme de transcendance chez lui, sur un peu tout ce domaine très large que je vous propose. Que souhaiteriez-vous nous dire?
Alors la mélancolie, il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même qu'il était plutôt mélancolique ou désespéré, alors qu'il voyait Chéreau, et ça revenait justement sur la petite différence qui parfois peut devenir énorme entre les deux, c'est que Chéreau était pessimiste, et lui donc désespéré. Et je pense qu'il voyait là-dedans une sorte presque d'idéologie parfois chez Chéreau, alors que sa mélancolie à lui, elle est, à mon sens, essentiellement créatrice. Alors l'origine de la mélancolie, le père, la mère, la religion, l'armée, tout ce qui peut en faire d'ailleurs une sorte de devenir rimbaldien, hein, le père militaire, la mère bigote, etc. Je vais pas prendre position là-dessus. Par contre, qu'on entende qu'il y ait une mélancolie, encore une fois, créatrice, ça me semble vraiment décisif. Cette mélancolie n'a peut-être pas toujours été créatrice. Hein. On sait qu'il y a eu une tentative de suicide dans les années 70. Une seule, en même temps, oserais-je dire. Et donc ensuite, une affirmation très, très dionysiaque, hein, des forces vitales. De l'ivresse, de la sexualité, de la recherche de l'autre, de la provocation, de la nécessité de dire quelque chose du monde et de l'évolution de ce monde. Et j'entendais, parce que vous parliez de mélancolie, j'ai toujours cette formule de Melanie Klein, la psychanalyste, qui parle de mélancolie comme, alors c'est dans la version anglaise de son texte, c'est fall into pieces, hein, tomber en morceaux. Le sujet mélancolique, c'est celui qui est brisé. Et je crois qu'il y a de ça justement dans l'esthétique de Koltès, c'est-à-dire qu'on ramasse les morceaux. On parlait tout à l'heure de monologues croisés, entrechoqués, violentés les uns contre les autres, et c'est justement l'acte créatif qui va remettre les morceaux ensemble, tout en les laissant disjoints. Et c'est cette disjonction qui fait qu'on entre dans le texte à un moment donné et qu'on ne sait plus toujours où s'y trouver.
Alors, est-ce qu'il y a,
où on se trouve?
Est-ce qu'il y a, chez Koltès, une volonté de recoller les morceaux aussi de ce qui se passe en dehors du théâtre, autrement dit, de l'histoire en train de se faire? On a beaucoup parlé de la décolonisation qui est présente dans l'œuvre, même si lui ne revendiquait pas, je crois, à un très haut niveau, un discours sur la décolonisation. Quelle est finalement la place de l'extérieur, de la politique aussi, dans l'œuvre de Koltès, et peut-être aussi un petit peu dans sa vie, même si en dehors de l'épisode communiste, je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire sur ce sujet, Christophe Bidan.
La place de l'extérieur au sens large, je pense qu'elle est première. Pour moi, elle est première. C'est d'ailleurs par cette extériorité que, qu'en tant que lecteur, j'investis l'œuvre de Koltès. L'épisode communiste, on peut en dire un mot rapidement, il est relativement court, donc son encartement, hein, au Parti communiste, il est relativement court, mais il est intense, et il est continuellement sujet à une forme de culpabilisation. C'est-à-dire qu'il reconnaît très bien que lui ne sera jamais comme un ouvrier, un prolétaire, un sous-prolétaire, que même quand il se retrouve avec un franc en poche en Amérique centrale, il a quand même toujours sa mère, un ami qui va finir par lui envoyer de l'argent et qui va permettre de s'en sortir. Donc,
une forme de haine de soi aussi?
De haine, je ne sais pas, mais en tout cas de culpabilité. De culpabilité qui certainement est un moment passager, c'est-à-dire à la fois une culpabilité avouée, reconnue, mais pas non plus qui entrave le sujet jusqu'à justement désespérer totalement. Et donc, ce qui m'intéresse encore une fois là, c'est cette manière dont justement le l'avenir est toujours possible. J'avais formulé ça il y a quelques années sous la forme l'origine est toujours en avant, et qu'il s'agit toujours de se reconstruire et de se reconstruire à partir de l'extérieur, à partir de l'extériorité du monde. Il n'y a pas de discours, effectivement, ou très très peu de la part de Coltès contre le néocolonialisme, même pour l'homosexualité, à une époque où il y a tant de discours qui affirment, de Guy Hockenheim jusqu'à Michel Foucault, par exemple.
Il est extrêmement discret sur ce sujet-là.
Il reste très discret sur ce sujet. Donc il n'y a pas un militantisme affirmé. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que le communisme, finalement, en tant que philosophie reconnue et insertion dans sa propre vie, comme sur ce mode de culpabilité dont je parlais tout à l'heure, et donc de la nécessité de rattraper cette culpabilité. La culpabilité, elle nous met en arrière et on a envie, justement, de la combler. Je crois qu'à un moment donné, ne plus être communiste, c'est ne plus recourir au discours en général. Et que donc il l'est toujours, sans l'affirmer de manière archi-militante et archi-discursive, hein, mais que justement il va faire entrer dans ses pièces cette extériorité qui est et n'est pas politique, qui est toujours politique, finalement, et qui part à chaque fois, d'ailleurs, d'événements très concrets. Il y a des scènes originaires. Hein. C'est comme Le Rouge et le Noir, finalement, qui part aussi d'une anecdote, d'un fait divers. Hein. Il y a des faits divers, souvent, à l'origine de ces œuvres, mais ces faits divers sont le moyen, ça peut être l'affiche de Soucault, du criminel en série, là aussi, hein, comme autre exemple qu'on pourrait donner. Il y a des scènes originaires qui sont dans la réalité, mais qui vont venir précisément affirmer cette extériorité, affirmer donc une politique du dehors, et lui permettre de dire quelque chose du réel.
Puisque vous parlez de Roberto Soucault, voici un extrait lu par Catherine Yégel.
Est-ce moi, Roberto? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu les changements se faire et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant, si sage pendant 24 ans, est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails, on l'abandonne, on l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié.
Donc le monde est en effet omniprésent dans l'œuvre de Coltès, le monde en l'occurrence qui arrive par le fait divers de l'histoire de Roberto Soucault, cet assassin jeune et beau qui fascine Coltès. Il y a donc chez lui le monde, ou plus précisément le sens du monde. Je voudrais reprendre cette expression dont on a dit tout à l'heure qu'on y reviendrait. Avoir le sens du monde, c'est quoi? C'est un peu comme avoir le sens des affaires, c'est-à-dire on a une intuition du monde, mais en même temps on ne pourrait pas l'expliquer et on ne cherche pas à produire un discours articulé ou un discours militant.
Oui, c'est ce que j'essaie de préciser tout de suite en ouverture de ce livre. Que j'essaie aussi d'introduire dans le titre par la virgule. C'est pas Coltès, deux points, le sens du monde, hein, comme s'il le détenait. C'est Coltès, virgule, le sens du monde, comme une respiration, comme une apposition aussi, d'un point de vue grammatical. Donc, quelque chose à quoi on s'appose, quelque chose à quoi on se confronte. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que Coltès n'a jamais voulu n'a jamais détenu le sens du monde, n'a jamais voulu exprimer le sens du monde, mais que c'est plus effectivement un rapport à ce qu'on pourrait traduire par le flair, avoir le sens des affaires, avoir le flair, avoir l'intuition pour une situation, une décision à prendre, la grâce peut-être, et un certain mode de don du sens qui... Alors c'est là que la philosophie revient peut-être, c'est-à-dire la phénoménologie en l'occurrence, le fait que regarder et percevoir de manière générale, c'est déjà donner sens à quelque chose. Et donc si l'extérieur est très présent, c'est parce que Coltès le regarde de façon intense, de façon décalée par rapport à d'autres, et c'est cette présence de l'extériorité du monde qui revient.
Autrement dit, on comprend le monde quand on a lu Coltès, on le ressent même davantage qu'on le comprend.
Tout à fait, c'est la question de la perception très, très globalement. Hein. Est-ce qu'une perception est déjà un acte de compréhension ou pas? Elle est à la lisière certainement entre la perception elle-même et l'acte de concevoir. Il y a une phrase, en tout cas un petit passage dans la solitude des champs de coton sur lequel je me suis arrêté dès ma première lecture, que j'ai toujours trouvé très 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 beau, très intuitif là aussi justement et très fort, et on l'a entendu revenir un peu là dans la réplique dite par Catherine Yégel, c'est quelque chose qui se structure autour de la notion de reconnaissance. Dans la solitude des champs de coton, il y a ce passage où j'avoue, je ne serais même plus, c'est le dealer ou le client qui le prononce. Maintenant que je reconnais davantage les choses que je ne comprends pas. Hein. Reconnaître quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans le discours de la mère de Roberto Succo, puisqu'elle commence par dire que elle ne le reconnaît pas, elle ne le comprend pas, en tout cas. Elle ne le reconnaît plus. Et tout ce, non pas ce monologue, mais cette tirade s'articule précisément autour de cette contradiction à un moment donné. Elle lui dit « Pourtant, je te reconnais ». Donc, qu'est-ce que c'est que reconnaître ce qu'on ne comprend pas?
Mais c'est un peu toute la démarche de Coltès vis-à-vis de Roberto Succo. Est-ce qu'on peut comprendre le geste terrible de Roberto Succo qui va jusqu'à tuer sa mère? Oui, semble nous dire Coltès. Comprendre, ça n'est pas excuser, mais saisir quelque chose de ce meurtrier, c'est important. Et cette démarche, au fond, il faut la voir.
Oui, et c'est là que vous parliez d'extériorité, hein, ou de dehors tout à l'heure. C'est là qu'on est au plus lointain de l'extérieur ou du dehors, dans l'épreuve même de la folie. Et savoir précisément ce qu'on peut reconnaître comme quelque chose d'aussi lointain, sur lequel on aurait du mal à apporter une explication, voire même un langage, hein, c'est précisément peut-être là où la mélancolie se transforme encore une fois en créativité, où on peut, à partir de ce que Coltès a appelé lui-même une exemplarité, et ça lui a été reproché, il n'a pas trop entendu les reproches, parce que c'était un entretien qu'il a donné à Lucien Atoun très peu de temps avant de mourir, et encore une fois, c'était pas une exemplarité au sens d'un modèle, hein, mais justement de ce statut extraordinaire du fou, du meurtrier, qu'on peut retrouver dans toutes les tragédies antiques, par exemple, bien sûr, c'est cette exceptionnalité qu'il l'emportait certainement très très loin et qu'il avait envie de à laquelle il avait envie de se confronter.
Parce qu'il y a aussi peut-être une identification lointaine avec le marginal qu'était Roberto Succo.
Parce qu'il y a peut-être une identification partielle, en tout cas, effectivement, je ne pense pas, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il s'agissait de la part de Coltès de vouloir recoller des morceaux. Par contre, qu'il y ait quelque chose de brisé dans... on rappelait tout à l'heure qu'il avait été forgé, hein, d'une certaine manière, par l'armée, l'école et l'église, ce qu'Althusser appelait les trois appareils idéologiques d'État. La manière de se sortir de tout cela et de donner un gage à cette exemplarité ou cette extériorité, c'est ce à quoi il s'est affronté, oui.
Merci beaucoup, Christophe Bidan. Je rappelle que vous êtes professeur de théâtre à l'université de Picardie, Jules Verne, et auteur notamment de Bernard-Marie Coltès, Généalogie, et de Coltès, Le sens du monde, chez Farago pour le premier et aux Solitaires intempestifs pour le second. Tout de suite, la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique présentée aujourd'hui par Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour à vous Jérôme.
Bonjour Mathieu.
Vous allez nous parler des frères Goncourt.
Oui, c'est un nom qui refleurit chaque automne au moment de l'attribution du fameux prix qui porte leur nom. Mais justement, ce nom qui orne le fameux bandeau rouge finit par devenir une sorte de label et presque une abstraction. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de découvrir qui étaient vraiment les frères Goncourt avec la publication, chez Taillandier, d'une biographie signée Pierre Ménard, très jeune et très brillant biographe. Son titre, Les infréquentables frères Goncourt, infréquentables mais ô combien fréquentés, précise leur biographe. Et en effet, le tableau qu'il peint de ces deux célibataires fusionnels et savoureux, Jules et Edmond Goncourt sont des jumeaux avec 8 ans d'écart, ou plus exactement des frères siamois. Ils partagent tout, y compris leur maîtresse, et quand ils rédigent leur fameux journal, l'un commence une phrase et l'autre la termine.
Alors ça d'accord, mais est-ce qu'ils ont été de grands écrivains ?
Alors ils ont été un peu éclipsés dans l'histoire littéraire par les géants de leur siècle, Flaubert et Zola, dont ils furent les amis proches. Ce sont d'abord des peintres ratés, des dramaturges sans théâtre, des historiens du XVIIIe siècle un peu oubliés. Ils s'essaient également au roman avec une particularité, des titres délicieusement désuets formés par le nom de leurs personnages, Germini Lacerteux, Madame Gervaisé, René Maupérin. Mais ils n'ont pas de chance, leur premier roman paraît le 2 décembre 1851, le jour du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Ils ont beau être considérés comme des précurseurs du naturalisme, à leur grande âme, ce sera Zola qui connaîtra le succès avec ses Rougon-Macquart. En fait, leur grande œuvre, celle qui les a fait passer à la postérité, c'est évidemment leur journal, un monument. Chaque soir, à leur bureau, ces deux Alcestes en robe de chambre, comme les décrit Pierre Ménard, se vengent de leurs infortunes en poignardant leurs contemporains avec leurs mots.
Et dans ce journal, personne évidemment ne trouve grâce à leurs yeux.
C'est un jeu de massacre. Même leur grand ami Flaubert est dépeint comme un génie de province, un gros sensible sans finesse. Théophile Gautier se voit reprocher sa lassitude d'hippopotame. Le comte de Lille, sa voix, qui ressemble au déchirement aigu d'un couteau dans un melon pas mûr. Ils sont tellement jaloux du succès de Zola qu'ils envisagent un temps de placer une pancarte au-dessus de leur porte sur laquelle on pourrait lire « Il est interdit de parler ici de la personne et de la littérature de Monsieur Émile Zola ». La vanité n'est pas leur moindre défaut, comme l'écrit joliment Pierre Ménard, ils remettent en cause Dieu, mais jamais leur talent. Cela dit, comme ces deux mouchards des lettres fréquentaient tous les écrivains de leur temps, Maupassant, Renan, Mallarmé, Barrès, les milliers de pages de leur journal constituent évidemment une source inépuisable sur le 19e siècle.
Alors évidemment, vu d'aujourd'hui, de 2020, les frères Goncourt ne sont pas tellement politiquement corrects.
En effet, ces deux célibataires n'aiment ni les enfants, ni les femmes, ni les pédérastes, ni la République, ni les juifs. Chez ces deux misogynes, les femmes sont toujours sottes, superficielles. Les juifs ne songent qu'à s'enrichir. Et Edmond, le survivant, le veuf, comme on l'appelait, des deux frères, écrira même à propos de Dreyfus, « Si le capitaine Dreyfus avait vendu son pays seulement pour placer l'argent à 3%, ce serait vraiment bien juif. » À tel point que leur biographe se demande très sérieusement si, compte tenu du climat politiquement correct de notre époque, certaines communes ne vont pas finir par débaptiser leurs rues et leurs places Goncourt. Il craint même pour le fameux prix qui porte leur nom. Mais que serait le prix Goncourt sans les frères Goncourt ?
Mais il va les rendre vraiment infréquentables, ces frères Goncourt. Pierre Ménard, qui publie donc chez Taillandier cette biographie avec une préface de Michel Vinocq. Merci beaucoup Jérôme Dupuis du magazine L'Express. C'était la Compagnie des œuvres, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Théo Gomard. Demain, suite et fin de notre série Coltès, avec un dernier épisode consacré à la mécanique du théâtre de Coltès, mais aussi à son actualité et à son rapport au théâtre classique. Mon invité pour parler de tous ces thèmes sera Florence Bernard.